seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous. Après plusieurs semaines d'absence, Il regarde le monde tourner est de retour et affiche toujours le même objectif, décentrer votre regard loin des sentiers rebattus de l'information ou creuser ces nouvelles qu'on vous expose sans vous les expliquer. Bref, relief, recul et surtout légèreté. Pour un voyage qui se conclut toujours par une note insolite. À la technique, le commandant de bord, Clément, est toujours fidèle au poste, oui, et il a un mot pour vous.
Aujourd'hui, ce sera surmenage, le mot.
Et c'est en Mongolie, loin du surmenage, que je vous emmène pour ce 37e numéro. On va parler exode rural, yourte, urbanisme, attachez votre ceinture, attention au décollage. Et puisque nous partons en voyage, autant le faire en musique.
Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage.
Fin du voyage pour une reprise signée Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Et ça y est, donc nous voici en Mongolie. Nous sommes sur le tarmac de l'aéroport international Gengis Khan, qui dessert la capitale du pays, Oulan-Bator. Comment ça? C'est cliché le nom. Oui, alors pour être tout à fait exact, il s'appelait cet aéroport l'aéroport Bouyant-Oukaa jusqu'en 2005, avant d'être renommé ainsi pour célébrer le 800e anniversaire de l'Empire mongol. Donc c'est bien l'aéroport international Gengis Khan où nous sommes. Pour parler géographie, et pas pour parler histoire, puisque je vous ai emmené en Mongolie, pour évoquer l'exode rural et ses conséquences. Et oui. Jamais ce pays grand comme deux fois et demi la France n'avait connu un tel exode rural. Depuis le début des années 2000, 15% des 2 800 000 Mongols ont migré vers la capitale. La ville Oulan-Bator accueille 1,2 million d'habitants aujourd'hui, soit 40,6% de la population mongole. Tout ça sur une surface qui correspond à 0,3% de la superficie totale du pays. Autant dire que ce déséquilibre, il pose de sérieux problèmes, d'aménagement notamment, et ça va pas en s'arrangeant, puisque 60 000 nouveaux migrants arrivent chaque année. Bob Marley sur Transistor et Hexides. En Mongolie, l'exode rural, il est lié à deux phénomènes. Des événements climatiques inhabituels, d'une part, et puis le boom du secteur minier. Bah oui, parce que selon la Banque mondiale, l'industrie extractive, elle a permis au pays d'afficher une croissance de 17,4% en 2011. Pas mal, hein ? Le secteur minier en Mongolie, il était déjà présent à l'époque soviétique. Il a connu un véritable boom ces 10 dernières années et il devrait encore progresser pour atteindre 95% des exportations du pays dans les prochaines années. Oui, lorsque les plus grandes mines seront en fonctionnement. Et il faut dire qu'il y a de quoi faire. Lors d'une conférence de presse donnée par le ministre mongol de l'énergie en 2011, les ressources en charbon, avait été estimé à 162 milliards de tonnes, ce qui équivaut à 10% des réserves connues sur la planète. Oui, et Bruno Mars a raison, c'est un véritable trésor que renferment les sols mongols. Et il n'y a pas que du charbon en Mongolie. Il y a du cuivre également, puisque le pays posséderait la quatrième plus grande réserve du monde. De l'or aussi, et puis d'autres métaux et des minéraux précieux. Parmi les joyaux de ce trésor souterrain, le plus brillant a un nom et un joli nom. Oyutolgoy, la colline turquoise. Elle est considérée comme l'une des mines d'or et de cuivre les plus importantes au monde. Elle est exploitée par le groupe minier multinational anglo-australien Rio Tinto depuis l'année dernière. Lorsque l'extraction tournera à plein régime dans cette mine, en 2021 selon les estimations, il pourrait constituer 4% de la production mondiale de ces deux minerais et la moitié des exportations du pays. Bref, or, cuivre et surtout charbon, c'est le boom du secteur minier en Mongolie qui explique en partie l'arrivée massive de ruraux en ville, d'autant plus désireux de trouver un travail dans ce secteur que les derniers hivers furent particulièrement rudes. White Winter Hymnal, c'est ce que chantait Birdie à l'instant sur Transistor. C'est également l'autre cause de l'exode rural mongol, des accidents climatiques hivernaux, les dzuds. Dzud, c'est le terme mongol qui désigne un hiver particulièrement enneigé, pendant lequel le bétail il est incapable de trouver sa nourriture à travers la neige. C'est ce qu'on appelle un dzud blanc. Alors il existe aussi une autre forme de dzud qui rend difficile également le pâturage en hiver, le dzud noir. Très original tout ça. Il se produit, celui-là, quand la température moyenne augmente, ce qui entraîne une désertification dans le pays. Le désert de Gobi ne cesse de grandir, quoi. Et ça réduit considérablement les terres pouvant servir à nourrir les animaux, ce qui pose de graves problèmes, notamment en cas d'hiver rude. Le dernier dzud en 2009-2010, il était blanc, il a recouvert 80% du territoire mongol de neige et il a causé la mort de 4 à 8 millions d'animaux selon les estimations. Pendant cet épisode, 9000 familles ont perdu la totalité de leurs troupeaux, 33000 autres ont perdu au moins la moitié de leur cheptel et selon les Nations Unies, 17% du bétail au total aurait succombé pendant cette période. Depuis ce dernier épisode, les Mongols ont peur de devoir à nouveau faire face à de tels phénomènes météorologiques. Bref, au contraire de Dido, hein, qui chantait à l'instant « Don't leave home », bah oui, on comprend pourquoi de nombreux Mongols quittent leur steppe pour rejoindre la capitale. Mais cet afflux massif de population, il n'est pas sans poser des questions. En effet, hein, les équipements d'Oulan-Bator, ils conviennent pour 600 000 habitants. Or, avec l'exode rural, la population de la capitale a doublé et les autorités n'arrivent pas à faire face. Dans certains quartiers récents, l'absence d'eau courante, de latrine, rend les conditions sanitaires extrêmement précaires. Aujourd'hui, Oulan-Bator, c'est une ville champignon, empêtrés dans ces constructions anarchiques et fragiles, tandis que les citoyens peinent à trouver un emploi dans un pays où le taux de chômage dépasse les 10%. Surtout, elle est au bord de l'asphyxie, étouffée par un air devenu irrespirable.
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Oui, il faut que tu respires, Mickey 3D a raison, mais quand tu habites à Oulan-Bator, c'est un petit peu compliqué. Oulan-Bator, c'est aujourd'hui une des villes les plus polluées du monde. La capitale mongole, hein, elle enregistre un taux de microparticules dans l'air qui peut atteindre à la saison hivernale 7 fois celui de Pékin. Le trafic automobile, les centrales thermiques en sont en partie responsables, mais pas que. Par des températures qui peuvent descendre en dessous de moins 40 l'hiver, oui. On rigole pas en Mongolie. Le monoxyde de carbone rejeté par les chauffages au charbon, qui sont assez vétustes, par des milliers d'habitations des quartiers de yourtes, dépasse jusqu'à 200 fois les limites de sécurité sanitaire fixées par l'OMS. Autant dire qu'à Oulan-Bator, on manque d'oxygène, et c'est pas Jean-Michel Jarre qui dira le contraire. Alors, je parlais un instant, ça vous a peut-être étonné d'ailleurs, des quartiers de yourtes d'Oulan-Bator. La yourte, vous savez, c'est l'habitation traditionnelle des nomades d'Asie centrale. Alors, en Mongolie, on dit pas yourte parce que c'est turcophone, on dit ger, G-E-R. Mais yourte ou ger, les Mongols, ils arrivent en ville et ils les transportent avec eux. Sur les versants nord et dans le centre d'Oulan-Bator, ces quartiers de yourtes concentrent plus de 60% de la population de la ville, qui a maintenant donc deux visages. La ville classique, on va dire, constituée depuis les années 20, bâtie en dur, dotée de réseaux, eau, assainissement, électricité, chauffage urbain, gérée et équipée par des services publics depuis l'époque soviétique, donc de façon assez centralisée. Et puis, il y a ces quartiers, les quartiers de yourtes, qui composent ce qu'on appelle la ville de feutre. Ce sont des séries d'enclos avec à l'intérieur soit une yourte, soit alors une petite maison construite en matériaux de récupération, souvent du bois. Cette partie de la ville, elle n'est raccordée à rien. Love it or leave it chante Assaf Avidan. Et la steppe mongole, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que les Mongols qui rejoignent la ville, eh ben, ils y transfèrent un peu de leur steppe. Il faut dire qu'à Oulan-Bator, jusqu'à récemment, il suffisait de trouver un espace vierge, d'y dresser une barrière, et puis voilà, c'était chez soi. La ville, elle tente désormais de gérer l'urbanisation de la banlieue. Mais le fait est que se sont constituées des interfaces entre ville et campagne, sorte d'espace de transition, peut-être nécessaire pour les ex-nomades en perte de repères dans la grande ville. Dans la période qui suit l'arrivée des migrants, dans les quartiers les plus excentrés, ceux qui sont en train de naître avec les yourtes et tout, on peut entendre le bêlement d'un mouton, le hennissement d'un cheval. C'est pas vraiment la ville. L'intérieur de l'enclos, il n'est pas vraiment entretenu. Seul le portail fait l'objet d'une certaine attention. Lieu de passage investi d'une valeur symbolique, il est peint en bleu ou en vert, décoré de motifs traditionnels, de même que les poteaux sculptés qui l'encadrent. Oui, dingue. Comme toujours, on termine de regarder le monde tourner sur une note insolite. Et on reste en Mongolie dans notre yourte. Errer toujours, ne pas se fixer, c'est la devise des Mongols. Le nomadisme figure au cœur de la culture mongole, mais au rythme où la désertification progresse dans la région, ce mode de vie pourrait bientôt ne plus être que de l'histoire, relégué dans des musées. Attentif à l'impact du réchauffement climatique sur la planète, le photographe sud-coréen Dae Sung Lee, il a mis en scène ce que ça pourrait donner. Ces photos sont belles, tristes à la fois, et vous pouvez les découvrir sur la page de l'émission. Ethnic Zorigu feat Tatar Zaya et le titre Kulek Bahatar sur Transistor, la seule radio qui te diffuse du rap mongol en fond sonore. Vous avez peut-être entendu une sorte de bourdonnement étrange, un chant de gorge diphonique. Écoutez plutôt. Alors il s'agit du Kemi et c'est typique de la musique mongole. Ce type de chant imite le son de la guimbarde. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2010 pour la Mongolie. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Le temps de remercier également Clément à la technique. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Il regarde le monde tourner. Nous irons en Australie, on parlera immigration. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas de regarder le monde tourner.